apporter lecture ce soir, en saluant la parole de Dieu sur 1 Corinthiens 8. On est à 1 Corinthiens 8. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est sur le sujet, le thème de la viande sacrifiée aux idoles. Alors, c'est un sujet, quand on le dit comme ça, peut-être ça ne parle pas trop, mais en fait, c'est un sujet passionnant. Passionnant, parce que ça nous concerne aujourd'hui, ça concerne notre vie d'église, concerne les opinions différentes qu'on peut avoir. C'est un sujet qui est clivant aussi, un sujet qui crée une séparation, qui peut créer une séparation, mais le but c'est justement de ne pas se séparer, mais au contraire de chercher l'unité à travers de nos différences de compréhension sur certains sujets. Alors, on va demander l'aide du Saint-Esprit, le grand enseignant au travers de la parole, la Bible. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une voudrait prier pour remettre cette étude entre les mains du Seigneur?
Stéphane, est-ce que je pourrais citer un sujet de prière
Oui, bien sûr.
Au sujet de la santé de Didier Magre. J'ai eu Claire tout à l'heure, et en plus de son problème de zona, de hanche et tout, il doit se faire contrôler régulièrement les poumons parce qu'il a un petit nodule. Et à l'occasion du contrôle, ils ont vu qu'il avait une pneumopathie, donc il est sous antibiotiques, il doit voir le pneumologue en urgence. Voilà. Donc ça rajoute. Donc il a une santé très, très fragile. Et comme c'est un greffé du rein, il a vraiment besoin de nos prières.
Voilà. Alors est-ce que quelqu'un ou quelqu'une voudrait prier? Et c'est Didier Magre, c'est ça?
Didier Magre.
Sentez-vous libre, je vous laisse une personne.
Seigneur, merci pour ces moments que tu permets. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de pouvoir t'apporter notre frère Didier. Tu connais Seigneur sa situation et nous voulons vraiment ce soir crier à toi pour que tu le soutiennes, pour que tu poses ta main guérissante sur lui. Que tu lui donnes ta paix, Seigneur, et que tu bénisses aussi Claire, Seigneur, et dans cette situation, que tous les deux aient toujours les regards fixés sur toi. Seigneur, nous pensons aussi à Patricia, qui était également éprouvée, nous voulons te demander de la bénir aussi. Merci, Seigneur, de nous réunir ce soir. Merci pour ta parole que nous pouvons ouvrir sans aucune crainte, et nous te demandons ton aide pour que nous puissions vraiment comprendre tout ce que tu voulais nous enseigner. Merci de bénir Stéphane, Seigneur, aussi, et vraiment que nous puissions apprendre encore ce soir à mieux te connaître et que toute la gloire t'en revienne. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 8 et à lire le chapitre qui n'a pas énormément de versets. 1 Corinthiens au chapitre 8. Et là, pareil, si quelqu'un ou quelqu'une veut lire le texte à haute voix, 1 Corinthiens au chapitre 8.
Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience, à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère.
Amen. Alors, comme j'ai cru comprendre que vous appréciez d'avoir les plans des messages, je vais faire circuler un peu mon voisin voisin. Vous vous souvenez qu'avec avec Benjamin, qui a traité le chapitre 7, en fait, Paul, il est en train de répondre à des questions que lui ont posées par écrit les Corinthiens, début du chapitre 7, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Donc, Paul va simplement répondre là à des questions, à des interrogations de l'église de Corinthe et ma foi, pour aujourd'hui, ça répond aussi à des questions qui se posent dans les églises. Et les trois chapitres qu'on va voir avec moi, on ne va pas les voir tous ce soir, il y a aussi la semaine prochaine, c'est chapitres 8, 9 et 10. Donc ça traite des sujets pratiques de l'Église, comment on procède pour tel ou tel sujet. Et donc là, au travers de ce sujet des viandes sacrifiées aux idoles, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, ça nous concerne tous. Parce que le thème de ce sujet, c'est le thème de la liberté chrétienne, sur ce que l'on a le droit, ou ce qu'on n'a pas le droit de faire en étant chrétien. Sur la viande sacrifiée aux idoles, les chrétiens étaient partagés. On va expliquer en détail ce que c'est que la viande sacrifiée aux idoles. Mais sur ce sujet-là, il y avait des dissensions dans l'Église. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et Paul dit, en fait, dans ce texte-là, c'est normal, hein, ce sera toujours comme cela. Il y aura toujours des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Et à cause d'un problème que l'on va, enfin, pas d'un problème, d'un fait que l'on va évoquer ce soir, c'est qu'il y a dans l'Église ce qu'on appelle des consciences faibles. Je mets ça entre guillemets, des consciences faibles. Ce n'est pas dans un sens péjoratif. C'est des consciences sensibles, fragiles. Ça dépend aussi de l'arrière-plan qu'on a pu avoir dans notre passé, avant notre conversion. Et puis, donc, les consciences faibles, et en face, il y a donc ce qu'on va appeler les consciences fortes. Donc, Paul met ici en opposition deux catégories de chrétiens. Pas une opposition dans un but de clivage et de division, et qu'on se tienne front contre front les uns les autres. Mais au contraire, dans un but d'unité. Hein, c'est que malgré notre différence de point de vue sur tel ou tel sujet, eh bien, on décide de rester unis. En fait, d'être d'accord, finalement, sur nos désaccords. On peut éventuellement débattre de ces choses-là, en discuter, mais, comme je dis souvent, on peut en débattre sans se battre. Et quand j'étais à l'Institut biblique, et mon directeur d'études qui disait aujourd'hui, parce que j'étais dans une alliance d'église qui a connu bien des clivages, bien des dissensions, parfois je suis navré de le dire avec une vraie violence dans les mots, dans les attitudes, et c'est vraiment très dommage. Et donc mon directeur d'études, il disait en fait notre rôle en tant que amoureux de la parole de Dieu, de la doctrine, et il parlait même aussi des théologiens, entre théologiens, moi je ne suis pas un théologien, hein, mais les théologiens, ils devraient réussir à débattre sans se battre. Et il disait le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans bien des milieux, on n'est plus capable de débattre sans se battre. Et donc finalement d'être d'accord sur nos désaccords, tant bien sûr que cela ne touche pas à l'Évangile. Hein. Jésus-Christ seul, la foi seule, la grâce seule, etc. Et donc la question qui va se poser tout au long de l'étude de ce soir, c'est la suivante. Jusqu'où va la liberté chrétienne en ce qui concerne les comportements qui ne sont pas spécifiquement interdits dans le Nouveau Testament. Et il y a des zones, on appelle ça les zones grises. Et donc, au cours des dernières générations, il y a eu des débats. Alors j'ai commencé à regarder un peu ça quand j'étais au Costa Rica, parce que mes collègues pasteurs, ils ont été, deux d'entre eux ont été formés aux États-Unis. Et donc ils regardent les débats entre théologiens conservateurs et entre théologiens libéraux. Et à chaque fois, c'est sur ces zones grises de la Bible dont ils discutent. Et là, on va en parler très concrètement. Pour l'instant, c'est peut-être encore un peu flou ce que je dis, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est pour ça, restez calme, tranquille, décontractez-vous. Parce qu'on a fait un Corinthien aussi dans notre église au Costa Rica, on a fait tout un Corinthien comme vous le faites là. Et donc le pasteur principal, il a un Master of Divinity, donc il a fait 6 ans d'études de théologie, tout cela. Et donc c'est vraiment une tronche, comme on dit. Et il est venu, il nous a appelé, les 3 autres collègues, et il nous a dit, les uns après les autres, il nous a demandé, qu'est-ce qui pour vous est la viande sacrifiée aux idoles dans l'église aujourd'hui, les sujets qui font polémique, qui sont débattus, que vous voyez que les chrétiens ne sont pas d'accord. Alors moi j'en ai donné quelques-uns, les autres ont donné quelques-uns, puis il a fait une petite enquête dans l'église comme cela. Donc c'était pour que ce soit factuel, hein, pour que on sache vraiment concrètement de quoi on parle. Et en fonction de notre arrière-plan, en fonction des églises desquelles l'on vient, ça peut être des églises très conservatrices, des églises pentecôtistes, charismatiques, cessationnistes, des églises plutôt libérales, en fonction de notre arrière-plan aussi dans le monde, ça donne des sujets de discussion qui sont divers et variés. Et donc ça va parfois vous faire sourire, je vous demanderai de ne pas commenter les sujets, parce que sinon ben, on va pouvoir en débattre encore pendant des mois et des mois, là, on n'est pas couché. Donc je vais brasser, ce n'est pas exhaustif, mais voilà quelques sujets qui sont débattus. L'alcool. Est-ce qu'on a le droit de boire un verre d'alcool, un verre de vin ou deux, ou bien est-ce que c'est péché? Peut-être ça vous fait sourire, hein, si vous êtes... alors là, pour les conservateurs, ils vont dire, les libéraux, là, ils boivent de l'alcool, alors que c'est proscrit dans l'Écriture. Moi, à l'Institut biblique, j'avais un professeur qui me disait, c'est péché de boire un verre d'alcool. Bon, voilà, quand je dis, on commence pas. Alors, jouer aux cartes. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit que ça s'était utilisé aussi pour la divination et ces choses-là. Est-ce qu'on peut se maquiller ou ne pas se maquiller? Je connais des chrétiens qui... Je vais essayer de ne pas trahir mes positions, hein, sur les sujets, mais je connais des chrétiens, des chrétiennes, enfin des chrétiennes qui considèrent que le moindre maquillage, c'est péché. À cause de certains versets du Nouveau Testament qui sont pris hors contexte, vous allez dire, vous voyez, là, je me suis grillé. voilà, danser dans l'église. Quand on va en Afrique, on voit les gens qui dansent dans les églises, et plus on monte dans le nord de l'Europe, et moins on bouge, quoi. Voilà, alors est-ce que c'est sacrifié aux idoles de danser? Ou est-ce que la vraie façon d'adorer, c'est de rester stoïque comme ça, blême, et de ne pas bouger d'un millimètre? Les styles de musique dans l'église? Aller au cinéma, est-ce que c'est sacrifié aux idoles d'aller au cinéma? Mon copasteur en France n'avait pas le droit d'aller au cinéma parce que c'était quelque chose qu'il avait signé avec sa mission. Je ne sais pas si vous avez connu ça aussi, mais est-ce qu'il est autorisé, toléré pour mesdames de venir à l'église en pantalon et non pas en jupe, et si possible jusqu'en dessous des genoux? Pourquoi? Sans doute à cause de Deutéronome 22, verset 5, qui dit que les femmes ne doivent pas s'habiller comme des hommes. Alors bon, encore une fois, je ne veux pas détailler tout, mais quel était l'habillement dans ces périodes-là? Le port du voile, on voit des églises où il y a les femmes portent encore le voile, en rapport avec 1 Corinthiens 11. Les églises sont partagées, les chrétiens peuvent être partagés sur ce sujet. En préparant cette étude, j'ai fait... petite recherche là pour savoir quand le voile avait été abandonné. Donc dans l'Église catholique, c'est en 1983 seulement. Historiquement, les femmes ont toujours porté le voile. Je suis pas en train de plaider pour le voile, hein. Attention, mais c'est juste là où je voulais en venir, c'est qu'il y a eu un très bon article qui a été écrit sur l'abandon du port du voile. Et donc ce chrétien-là, catholique hein, d'ailleurs, un homme brillant, j'ai oublié le prénom, mais ça va peut-être me revenir, donc il disait que en fait, ce sont les mouvements féministes et libéraux qui ont poussé pour l'abandon du voile dans les églises. Et au départ, les milieux conservateurs résistaient, et puis finalement, le voile a été majoritairement abandonné. Mon directeur aussi d'études à l'Institut biblique disait que ça a été un des chevaux de bataille de la franc-maçonnerie de faire enlever le voile dans les églises. J'ai jamais réussi à retrouver où est-ce qu'il a pu avoir cette information. Mais donc pour certains, voilà, l'abandon du voile, est-ce que c'est sacrifié aux idoles ou pas? Voilà, je vous dis, c'est des sujets qui sont qui peuvent être tendus. Est-ce que les chrétiens peuvent faire de la politique? Certains disent, ben non, la politique c'est corrompu, il faut passer par des incubateurs pour monter dans les sphères de la politique, où là on fait allégeance au système, etc. Et d'autres chrétiens qui disent, mais non, il faut que les chrétiens soient en politique pour faire bouger les choses, pour faire changer les choses. Est-ce que l'on peut se soigner à l'homéopathie? Quand j'étais dans mon église à Paris, mon pasteur faisait des conférences pour dire que l'homéopathie c'était satanique. Alors moi, je disais partout après, mais l'homéopathie c'est satanique. Hein. Vous avez fait tout le détail que le fondateur de l'homéopathie, avec un pendule, il faisait ses trucs. Ouais. Et d'autres disent, mais non, c'est placebo. Mais l'effet placebo, il y a un effet, ça marche. Et puis il y a eu des recherches qui ont été faites après sur la mémoire de l'eau, qui ont été controversées. On a fait passer les gens pour des charlatans. Et puis après, ça a été repris par un professeur Montagnier, qui a été aussi vivement critiqué. Puis là, il a été racheté par la Chine pour continuer à travailler sur la mémoire de l'eau. Donc moi, je plaidais partout que ma mère se soignait à l'homéopathie, ma mère convertie au Christ. Et puis, je suis arrivé dans des églises où je voyais des chrétiens qui servaient le Seigneur, qui étaient engagés et qui prenaient de l'homéopathie. Je me disais, punaise, mais alors, pourtant, il est là, il est zélé, il aime le Seigneur. Alors, mais on peut donner des bouquins que des chrétiens ont écrit pour dire l'homéopathie, c'est satanique. On peut donner des traités, etc. Puis on voit, en fait, des chrétiens qui ils n'ont pas du tout le même avis. Plus récemment, John Piper relevait le top 10 des questions qui reviennent dans les week-ends de jeûne. Est-ce que l'on peut se faire tatouer? Alors vous verrez dans les églises, encore une fois, on peut. Si on reste bloqué, enfin coincé dans un milieu, on va toujours penser que ce que l'on fait est exact et c'est bon. Mais je vois au Costa Rica, dans notre église, c'est une église qui a été faite pour les surfeurs. C'est très proche de Surf Ministry. Et le problème, c'est que les surfeurs n'étaient pas les bienvenus dans les églises parce qu'ils venaient débrailler, les cheveux longs, tatoués de partout. Et donc, il y a des chrétiens qui se sont dit, mais il faut qu'on touche les surfeurs. Donc, on a fait des églises pour les surfeurs. Et puis, ils viennent, et puis ils sont tatoués, et puis ils aiment le Seigneur, ils servent le Seigneur, etc., etc. Plus récemment aussi, est-ce qu'on peut être chrétien et faire du yoga? Pareil, au Costa Rica, je vois les pasteurs, ils sont tous des surfeurs, je les vois, avant d'aller dans l'eau, ils font des postures de yoga. Et moi, on m'avait dit, ben non, le yoga, c'est satanique. Et donc, voilà, alors, on va un peu parler de tout ça. Mais les raisons pour lesquelles les chrétiens peuvent être en désaccord et discuter ces questions, c'est que la Bible ne les interdit pas clairement. Hein, sur tous les sujets là que j'ai évoqués, et on ne peut pas être dogmatique. Sur tel ou tel sujet. Avec le tatouage était interdit sous la loi, hein, pour les juifs, mais en Galates au chapitre 3, verset 24-25, il y a écrit que la loi, c'était un précepteur pour nous amener à Christ. Mais maintenant, la loi ayant été accomplie par Christ, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Nous ne sommes plus sous ce précepteur. Donc, dans ces passages-là qui parlent des tatouages, il y a aussi écrit qu'il ne faut pas se couper le coin de la barbe. Alors là, j'en vois plein qui ne respectent pas la loi, hein, parce que la barbe, elle est coupée, là, elle est nickel. Donc, voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être dogmatique et en parler avec autorité, comme on peut le faire pour le vol, pour la débauche, pour la calomnie, l'adultère, le mensonge, la convoitise, que le Nouveau Testament interdit clairement en tant que péché. Et donc ce sont ces zones grises. C'est dans ces zones grises-là que rentre la liberté de conscience. Et en fait, vous, moi, sur certains sujets, là, que sur certains exemples que je vous ai donnés, je vais être une conscience faible, puis sur d'autres, je vais être une conscience forte. Et donc, c'est toujours des sujets délicats. Mais chaque pratique, elle peut aussi varier en fonction de l'époque, comme je vous l'ai déjà dit aussi, du lieu dans lequel vous vous trouvez. Voilà, sur les plages du Costa Rica, c'est pas, avec un ministère beaucoup auprès des surfeurs, ce n'est pas forcément la même chose que dans une église conservatrice de la Bible Belt en Hollande. Vous voyez, parce qu'il y a une Bible Belt aussi en Hollande. Et de notre arrière-plan personnel, mais on va en reparler. Donc, premier point, le principe qui est dans les versets 4 et 6. Hein, donc, qu'est-ce que c'était les viandes sacrifiées aux idoles ? Eh bien, c'était des animaux qui étaient sacrifiés en offrande dans les autels païens qui étaient offerts à des divinités. Donc, il y avait une partie qui était brûlée et une autre qui était offerte aux prêtres païens. Et les excès étaient vendus sur les marchés locaux. Alors, les chrétiens se demandaient si l'on pouvait manger de cette viande ou pas, puisqu'elle avait été sacrifiée à des idoles, donc à des dieux, à des divinités. Attends, ça, on va y revenir tout à l'heure. Et pour répondre à cette question, Paul dit en réalité, il veut rassurer les chrétiens, et il leur dit, verset 6, « Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre divinité, dans le sens Dieu avec un grand D. » Il n'y a pas de concurrence à Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout a été créé et par qui nous vivons. Par qui nous vivons. Il est le seul Dieu et c'est par lui seul que tout existe. Il n'y a pas d'autre médiateur, pas d'autre Dieu, encore une fois, avec un grand D. Il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai souverain au ciel et sur la terre. Et donc Paul dit ici qu'en réalité, il n'y a pas de problème à manger de la viande sacrifiée aux idoles. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, une idole n'est rien. Et en réalité, ne contamine pas spirituellement la nourriture. C'est l'argumentation de Paul. Il n'y a pas d'autre Dieu, avec un grand D, si ce n'est dans la tête des païens. Et donc les idoles sont donc les divinités avec un petit D, ce sont que des morceaux de bois, de fer, et il y a plusieurs qui ont été conçus par la main de l'homme, mais en fait c'est absolument rien, c'est le néant. Il y a plusieurs exemples de satire de l'idolâtrie dans l'Ancien Testament. On peut prendre Jérémie 10 par exemple. Prenons Jérémie chapitre 10. Alors, quelqu'un veut lire les versets 2 à 6, Jérémie chapitre 10, versets 2 à 6.
Voici ce que déclare l'Éternel. N'adoptez pas la conduite des autres peuples, et ne redoutez pas les signes dans le ciel, même les peuples étrangers qui les redoutent. Les coutumes des autres peuples sont inutiles. Leur Dieu n'est que du bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par la main d'un sculpteur. On l'embellit d'argent ou d'or. Un marteau et des clous le font tenir en place pour qu'il ne branle pas. Ces dieux-là sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombres. Ils ne savent parler. Il faut qu'on les transporte car ils ne marchent pas. Ne les craignez donc pas. Ils ne font pas de mal et ils ne peuvent pas non plus faire du bien.
Voilà, c'est clair, hein ? C'est une fascinante. Restez dans le chapitre. Quelqu'un d'autre veut nous lire le verset 9 à 12.
On fait venir des lames d'argent de Tarsis et de l'or d'Uphaz. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les travaillent. Les habits de ces dieux sont de pourpre violette et rouge. Tous sont l'œuvre d'habiles artisans. Mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu vivant et il est roi pour l'éternité. La terre tremble devant sa colère et les nations elles ne supportent pas sa fureur. Vous leur vous leur tiendrez ce langage, les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a déployé le ciel par son intelligence.
Voilà, donc là il met vraiment en parallèle la toute-puissance du Dieu créateur et le vent, le néant, le bois, la pierre, et on pourrait lire aussi les versets 14 à 16. Mais en fait, partant de là, Paul dit qu'il n'y a pas de problème à manger la viande qui a été sacrifiée aux idoles, c'est rien, c'est que dalle. D'ailleurs, il dira ailleurs, toute nourriture est bonne, pourvu qu'elle soit prise avec action de grâce, 1 Timothée 4,4, toute nourriture est bonne. Et c'était aussi en parlant du même sujet. Toute nourriture est bonne, pourvu qu'elle soit prise avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et il dira ailleurs aussi, ne vous mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est notre foi en l'œuvre de Jésus-Christ qui nous sauve, qui nous justifie, qui nous sanctifie. C'est notre foi en l'œuvre parfaitement accomplie de Christ qui fait tout le travail en nous. Et pas ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, pas ce que nous mangeons ou ce que nous ne mangeons pas. Et encore moins les zones grises de la parole de Dieu. Et donc Paul dit, en quoi une viande sacrifiée à un Dieu qui n'existe pas affecte-t-elle notre spiritualité, notre sainteté et la transformation de notre esprit et de notre cœur? Et Paul dit, absolument rien. C'est pas ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas qui nous rend plus agréable ou moins agréable à Dieu. C'est ça l'argumentation de Paul. En quoi cela affecte notre sanctification et notre communion avec Dieu lorsque l'on boit une bière ou un verre de vin? Non mais, pour ceux qui ont connu les missionnaires américains, moi je ne me moque pas d'eux. Hein. Je les respecte, etc. Ils font énormément de travail pour la France et tout ça. Il y en a beaucoup qui sont persuadés que boire un verre de vin, c'est un péché. Mais la question là que Paul dit, c'est en quoi boire un verre de vin affecte-t-elle notre communion avec Dieu? En rien, c'est pas le fait de... Alors bien sûr, tant que cela ne devient pas de l'ivrognerie. Hein? D'ailleurs, même à la pub, les pubs à la télé française, ils nous disaient la juste mesure. Vous vous souvenez peut-être pour les plus anciens, un verre, ça va. Trois verres. Bonjour les dégâts. Je vois qu'il y a des connaisseurs. Depuis, ça m'a permis de jauger. Quoi. J'arrête au bout de deux verres. Surtout que je me connais parce que je sais d'où je viens. Je sais quel était mon arrière-plan avec l'alcool. Donc, voilà. Bon, après ce n'est que mon avis. En quoi ça affecte ma communion avec Dieu de faire tel ou tel sport? Parce que des fois on me dit, le sport aussi, c'est... En quoi ça affecte ma communion avec Dieu d'avoir un tatouage? En quoi ça affecte la communion d'une femme avec Dieu lorsqu'elle porte un pantalon à l'église et non une robe en dessous du genou? Ou en quoi ça affecte la communion avec Dieu lorsqu'on pratique des étirements, du stretching, qui est bon pour le corps, dont certaines postures font partie du yoga. Évidemment, dans toutes ces choses, il faut que tout se passe selon les règles de la sobriété. Hein, ce sont des mandats qui se trouvent dans la Bible, hein, sur la tenue vestimentaire, la parole nous encourage à faire preuve de modestie et d'humilité. Voilà en quoi tout cela affecte-t-il l'œuvre de Christ en nous? En rien. Cela n'affecte en rien notre sainteté et notre position devant Dieu. Notre salut n'est pas par les œuvres, il est par la foi. Notre salut n'est pas dans les choses que l'on va pratiquer, tant qu'elles ne sont pas clairement définies, bien sûr, comme du péché par le Nouveau Testament, donc des péchés que j'ai déjà cités, mais que vous connaissez très bien. Notre salut n'est pas par nos œuvres, il est par la foi. Et donc, dans ces domaines de la conscience, hein, la Bible nous appelle à être libres. Mais, parce qu'il y a un grand mais, à condition que cette liberté ne soit pas une occasion de faire chuter un frère ou une sœur qui n'a pas la même compréhension dans les sujets que nous verrons. On en vient maintenant au deuxième point, on va parler des consciences faibles. Donc il y a en effet des chrétiens dans l'Église qui ne sont pas arrivés forcément aux mêmes convictions que nous sur tel ou tel sujet. Et Paul les appelle les faibles. Hein, donc versets 7, 9, 10 et 11. Je crois que c'est mentionné 4 ou 5 fois, les consciences faibles ou les faibles. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas dans un esprit méprisant. Ce n'est pas des faibles dans le sens ils sont nuls, ce n'est pas des bons chrétiens. Non, non, parce qu'en fait, tout ce qu'ils font, ils le font pour le Seigneur et en conscience devant Dieu. C'est en conscience devant Dieu qu'ils vont refuser de faire une posture de stretching qui s'apparente à du yoga, où c'est vraiment pour la gloire de Dieu qu'ils vont se refuser à prendre une bière ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas du tout péjoratif ou méprisant quand Paul les appelle les consciences faibles. Ils ne comprenaient pas encore, en tout cas du temps de Paul, ils ne comprenaient pas encore tout à fait dans que la nourriture n'était pas contaminée et qu'en rien elle affaiblissait leur spiritualité. Ils n'avaient pas encore complètement saisi la toute puissance et la toute suffisance de l'œuvre de Christ à la croix. De la sainteté, de la pureté qu'ils avaient acquis grâce à Christ et non à cause de ce qu'ils mangent ou de ce qu'ils ne mangent pas, ou de leurs œuvres. Et Paul dit au premier, donc à ceux qui on va appeler du coup les consciences fortes ou les chrétiens forts, qu'il faut faire preuve de compréhension et d'amour envers les autres frères et sœurs. Car pour eux, dans leur compréhension des choses, il y a vraiment des divinités derrière les idoles auxquelles les viandes sont sacrifiées. Et pour eux, c'est une occasion de chute. Parce qu'ils vont faire ça, ils vont se dire, mais c'est affreux, c'est un péché. Et donc, en fait, en ne ménageant pas leur conscience, et en les entraînant éventuellement avec nous, on va les pousser à commettre quelque chose qui, pour eux, dans leur conscience, sera un péché. Et ils ne seront pas du tout convaincus, mais ils vont le faire quand même. Et c'est dans ce sens-là que Romains 14 dit « Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, et on le fait quand même, bien c'est un péché. » Parce qu'en fait, pour nous, c'est pas clair, c'est un péché contre Dieu, et on le fait quand même. Donc, on pêche contre Dieu. Et donc, ça c'est un principe, c'est qu'il ne faut jamais aller contre sa conscience. Il faut vraiment être sensible à sa conscience et ne jamais aller contre sa conscience en ce qui concerne les choses du Seigneur. Et donc le frère fort, entre guillemets, qui à cause de sa conscience forte aura fait du mal à un frère, à la conscience plus fragile, eh bien ce frère-là, le texte nous dit qu'il pêche contre Christ. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant par rapport à ce que l'on fait. On va voir maintenant le troisième point, là, les consciences fortes. Ainsi, Paul appelle les premiers, là, les consciences faibles. Alors, qui sont les consciences fortes? Comment on peut les définir? Eh bien, ce sont ceux qui sont libres et en sécurité dans l'œuvre parfaitement accompli de Jésus-Christ sur la croix. Ce n'est pas en fonction de ce qu'ils vont manger ou ne pas manger qu'ils vont être un meilleur chrétien, qu'ils vont être plus appréciés de Dieu. C'est uniquement par l'œuvre parfaitement accomplie de Jésus-Christ. Et ce sont ceux qui comprennent clairement le verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si je décide dans mon cœur de me soigner à l'homéopathie, par exemple, je ne suis pas un meilleur chrétien que les autres. Je ne suis pas un moins bon chrétien. Et le chrétien qui refuse catégoriquement de se soigner à l'homéopathie parce que pour lui c'est pas clair, Il a raison de ne pas le faire, mais ce n'est pas parce qu'il ne le fait pas qu'il est meilleur que les autres. C'est à double tranchant. Et on va même préciser ça. Donc aux consciences fortes, c'est aux consciences fortes hein, que Paul écrit ce chapitre, et il leur dit, vous n'êtes pas appelés à vivre seulement pour vous-même. Il y a des choses qui ne sont pas interdites dans la Bible, certes, et qui ne sont pas mauvaises pour vous, certes, mais si vous les pratiquez, elles peuvent faire tomber des frères et sœurs qui sont plus fragiles. Et donc il y a un principe universel qui peut s'appliquer à toutes les zones d'ombre. Veillez, verset 9, veillez à ce que votre liberté ne fasse pas trébucher ceux qui ont une conscience plus faible. Alors, quatrièmement, donc concrètement, on fait quoi alors? Parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Déjà, on doit éviter deux extrêmes. Le légalisme. Alors, le légalisme, du coup, dans la pensée de Paul, là, c'est ceux qui vont mettre plein d'interdits. Donc ça va être plutôt les consciences faibles. Il faut éviter le légalisme. Le légaliste, en fait, lui, il croit que tout est blanc ou tout est noir. Tout est licite ou illicite. Et donc, ils finissent par marcher par la loi et non par l'esprit, non par la liberté que donne l'esprit de Christ. Hein, le légalisme, il annule la liberté. Et il va mettre l'accent, il va être très dogmatique, très insistant, très incisif, très, très tranchant, très blessant même. Là où Dieu ne l'est pas. Hein, Dieu nous laisse une liberté. Et donc le légaliste, il va tomber dans la position de juge. Et il va se croire plus saint que les autres. C'est-à-dire que le légaliste, il va croire que c'est lui le fort. Ah, mais lui, il n'a pas encore compris que... il fallait que là, les femmes, là, elles arrêtent de venir en pantalon à l'église et qu'elles deviennent vraiment spirituelles et qu'elles mettent une robe juste en dessous des genoux. Lui, il n'a pas encore compris que il n'avait pas le droit de boire d'alcool. Vous voyez, il va fixer plein de règles comme ça, extérieures. Et il va se croire plus saint que les autres. Comme je vous dis, il est persuadé que c'est lui le mature et le fort et qu'il doit convaincre les autres de leur manque de sainteté et du fait qu'ils soient tombés dans le libéralisme. Et pour eux, pour le légaliste, la vie chrétienne devient une liste de choses qu'un chrétien peut faire ou ne pas faire. Benjamin Barnaba, il en avait parlé dans son message sur Lot. Hein, une liste de règles, de choses qu'on peut faire ou ne pas faire. Une liste de restrictions pour garder les gens dans la sainteté. Et donc c'est une tentative de changement par l'extérieur. C'est le contraire même de l'évangile, qui nous propose un changement par l'intérieur. La différence, si on voulait résumer, c'est que le légaliste, il va mettre des restrictions extérieures pour sanctifier le chrétien, alors que Dieu a prévu autre chose pour sanctifier le chrétien, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui sanctifie, et il le fait de l'intérieur. Petit à petit, pas à pas, avec le temps et l'enseignement de la parole de Dieu.
Oui. C'est peut-être l'influence des lois du Lévitique.
Bien sûr,
tout est défini.
Exactement. Ben, légaliste, ça vient de loi. Donc ça vient de la loi mosaïque où il faudrait mettre tout, absolument tout en...
Tout est défini.
Obéir à tout.
Jusqu'y compris justement les viandes sacrifiées.
Exactement. Exactement. Et donc le problème du légaliste, c'est qu'on peut devenir très propre de l'extérieur. Hein, parce qu'on obéit à une quantité de règles définies par nous-mêmes, mais qui d'ailleurs ne vont pas être forcément les règles d'un autre légaliste, peut-être encore plus légaliste. Mais c'est ce que Jésus reprochait finalement aux pharisiens, c'est qu'en fait vous êtes des sépulcres blanchis, mais à l'intérieur vous êtes plein de, je sais plus comment on dit, d'ossements et de rapines. Et parce que c'est l'hypocrisie la plus totale. Hein, l'Évangile, au contraire, nous propose une transformation de l'intérieur, qui est faite par l'Esprit Saint. C'est à l'Esprit Saint, c'est sa vocation, c'est son apanage, c'est sa fonction, c'est sa prérogative. Alors, l'autre travers dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le libéralisme. C'est-à-dire que là, tout est blanc. Donc là, on a la liberté totale en Christ et on peut faire absolument tout ce qu'on fait. Tout ce dont la Bible ne parle pas est permis. Tout ce dont ma conscience ne m'accuse pas n'est pas mauvais, donc je peux le faire et en plus le montrer à la face des autres. Et en fait, ce type de libéralisme, il devient quelque part, c'est subtil, mais il devient légaliste, parce que si on ne pense pas comme lui, eh bien c'est qu'on est, on a tort, on est faux, et puis on n'est pas un bon chrétien. Donc c'est une sorte de... comment j'ai noté ça ? C'est une sorte de légalisme à l'envers, voilà, un légalisme libéral. Et donc le problème, c'est que toutes les zones grises dans la parole de Dieu, et comme je vous ai dit, la liste que je vous ai citée tout à l'heure, je suis sûr que si je faisais un tour de table, là, vous auriez encore d'autres sujets à rajouter, hein, c'est pas exhaustif. Mais le problème, c'est que toutes les zones grises, elles peuvent être corrompues très facilement. Les légalistes, ils vont les mettre immédiatement dans la liste des interdits, alors que ce n'est pas explicitement interdit par Dieu. Et les libéraux, on va dire, ils vont les pousser à l'extrême, ils vont aller trop loin, et ils se cachent derrière le fait que Dieu ne les interdit pas. Alors, ce que l'on doit faire, j'ai mis petit 2 là, peut-être, dans votre plan. Ah oui, j'avais mis petit 1, ce qu'on...
les pièges à éviter.
Les pièges à éviter, évitez-les, donc, libéralisme. Et le petit 2, les attitudes à adopter. Alors... Première, c'est faire preuve de sagesse. Hein, versets 9 à 13, on ne va pas les relire, mais soyons prudents hein, sur ces sujets qui sont toujours les mêmes, sont toujours les mêmes sujets de polémique, de dissension entre les chrétiens. Soyons prudents, soyons sages. Il y a des gens qui ont eu des très mauvaises expériences avec l'alcool avant leur conversion. Des gens qui étaient ivrognes, alcooliques. Et Dieu les a totalement délivrés. Et pour eux, ils sont convaincus vraiment aussi que l'alcool, c'est très, très mauvais, très dangereux. Et puis d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose de médical, mais parfois, pour un ancien alcoolique, il suffit d'un verre.
Pour retomber.
Un verre pour retomber. Et pour eux, c'est absolument mauvais. Ils sont radicaux là-dessus parce qu'ils l'associent à leur passé de pêcheur. Et donc, le chrétien qui, lui, pense qu'on peut prendre un petit apéro pour se faire plaisir, pour se réjouir avec ses amis, tout ça, ben, si vous avez ce frère-là ou cette sœur-là à table, c'est pas forcément la peine de sortir les bouteilles devant cette personne. Pour ceux qui sont mûrs, une bière, c'est rien, hein, elle ne nous contamine pas. Comme la viande sacrifiée aux idoles ne nous contamine pas. Mais pour elle, pour un frère, elle peut être vraiment quelque chose de mauvais, de dangereux. Mmh. Alors pensons à nos frères et sœurs. Bon, là, je pourrais prendre encore plein d'exemples, mais pour le yoga, j'en pense souvent dans les témoignages, même encore récemment, là, avant, j'étais dans le yoga. Ah oui, mais dans le yoga, le yoga, il peut y avoir une dérive où il y a des gens qui cherchent le salut dans le yoga. Ils veulent se purifier, se sanctifier. Il y a vraiment pour des gens des salutations au soleil, oui. Des salutations à la lune. Oui. Donc ils se prosternent vraiment pour eux devant la création. Et pour eux, ça veut vraiment dire quelque chose de spirituel. Et Paul dira, mais en fait, c'est juste la création, c'est rien. Il y a pas d'autre dieu derrière ça. Mais pour une sœur qui a cherché le moyen de salut dans le yoga, pour elle, ça va être pas possible. Ben non, maintenant on est chrétien, c'est pas le yoga. Et vous voyez, elle fait pas la différence. Donc si tu fais, je vais vous le dire, moi je suis sportif, et donc je fais beaucoup d'étirements et de stretching, et il y a des postures de yoga. Mais voilà, bon, je vous le dis là parce que... quelle heure là ? 47. En fait, je vous le dis là parce qu'il faut que l'on progresse tous autant que l'on est. Quand notre pasteur principal, il est venu nous demander à La Rochelle, Costa Rica, il est venu nous demander, alors voilà, dites-moi certains sujets là, qui sont clivants, qui pourraient être la viande sacrifiée aux idoles. On a tous dit un peu des sujets. Moi je lui dis, fais gaffe, par contre ne donne aucun exemple concret, comme je viens de le faire là. Ne donne aucun sujet, parce que si tu donnes un sujet, tu vas scandaliser une partie de l'Assemblée, les faibles. Et je lui dis, moi, je te dis, ne donne aucun exemple, parce que tu affiches le bazar dans l'église. Puis on est arrivé le dimanche matin, il a prêché, puis il a donné tous les sujets. Ah, j'étais là-haut. Et ouais, il n'était pas content. Et moi-même, d'ailleurs, je n'étais pas content, il a donné des sujets. Je dis, attends, mais ça, non, ça, c'est pas bien, ça, c'est péché, ça. Moi, comme je dis, sur certains sujets, j'étais une conscience faible, sur certains, j'étais une conscience morte. On est rentré en voiture avec des chrétiens qui nous ont ramenés à la maison. Ils étaient scandalisés, ils nous disent, alors, qu'est-ce que t'as pensé du message? Je dis, ah, non, c'était bien, je ne veux pas critiquer les pasteurs, moi, je soutiens toujours mes collègues. Et ils étaient scandalisés par certains exemples qu'il avait donnés. Et donc, au début, j'étais conforté dans ma position de dire qu'il n'aurait pas dû donner les exemples. Pourtant, là, vous voyez que ce soir, je les ai donnés. Et parce que j'ai vu, en fait, que ça a eu beaucoup de bienfaits dans l'Église. Parce que ça a fait parler, ça a fait réfléchir, ça a fait confronter nos idées, nos points de vue. Et il n'y a pas eu du tout de dissension dans l'Église. Et les gens ont accepté que sur certains sujets secondaires, comme ça, qui n'ont pas trait à l'Évangile de Christ, on pouvait avoir des opinions différentes sans se chamailler, sans se battre, sans chercher à faire des partisans, etc., etc., etc. Et donc, voilà, je reprends l'exemple là, dans le stretching que je fais, il peut y avoir un child pose, là, donc c'est des étirements qui sont malheureusement ou pas dans le yoga. Je ne vais pas aller le crier sur tous les toits le dimanche matin alors que, à l'église, alors qu'il y a des frères et sœurs qui étaient là-dedans, qui ont cherché le salut là-dedans, qui se sont fait peut-être abuser même là-dedans. Et pour eux, c'est une occasion de chute, vous voyez. Mais et je termine avec ça. La deuxième chose, c'est que l'attitude à adopter, c'est d'enseigner avec douceur. Enseigner avec douceur dans quel sens? Il y a écrit dans 2 Timothée 4:2, il y a écrit prêche la parole. Insiste en toute occasion ou non. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. On doit sans arrêt, frères et sœurs, matures, je m'adresse là aux chrétiens matures, on doit sans arrêt prêcher la parole. Exhorter, enseigner, instruire avec douceur. Pourquoi ? Parce qu'on vient de voir que les forts, les matures, ils devaient prendre soin des fragiles. Et donc une partie, forcément, nécessairement, des soins que l'on doit apporter aux chrétiens fragiles, aux chrétiens faibles dans la foi, eh bien, c'est leur expliquer la vérité sur un verre de vin rouge, sur le stretching, sur de la nourriture offerte aux idoles. Et avec un petit peu de chance, il va finir par trouver la liberté sur ce sujet. Et c'est important que les chrétiens mûrs, en tant que personnes qui ont la liberté et la connaissance, c'est comme ça que commence ce chapitre, vous qui avez de la connaissance, ne soyons pas une occasion de chute pour les frères et sœurs, mais aussi on doit chercher à ce que les fragiles mûrissent, n'est-ce pas ? Et que les faibles ne restent pas sans connaissance. Dieu ne veut pas que l'on reste des petits bébés. Dieu ne veut pas que l'on reste des chrétiens fragiles. Il veut qu'on soit fort. Il ne veut pas que l'on reste des chrétiens immatures. Il veut que l'on devienne des chrétiens matures. Et c'est l'objectif d'Éphésiens 4:13. Je vous le lis, Éphésiens 4:13. Il faut faire tout cela, c'est-à-dire l'enseignement, etc., jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc d'un côté, l'effort doit chercher à ce que les faibles ne pêchent pas contre leur conscience, mais ils ne veulent pas non plus qu'ils restent prisonniers de leur conscience faible. Et ça, c'est tout le travail eh bien, d'une église, d'un ministère pastoral. On est un peu un funambule. C'est quelque chose de délicat, et je ne sais pas si c'est ici que j'ai entendu, mais enfin, moi, c'est aussi un de mes leitmotivs, c'est de trouver une position d'équilibre. En tant que chrétien, on doit être équilibré, ni balancé d'un côté, ni balancé de l'autre côté, parce que c'est pas bon. Et je conclue en réaffirmant quand même que limiter notre liberté, c'est bien souvent le chemin auquel Dieu nous appelle en Église. Mais il faut faire quand même attention à ne pas tomber dans ce que moi j'appelle la dictature des faibles. La dictature des faibles, parce que la dictature des faibles, ça veut dire t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Et donc en fait, on va se retrouver dans une église légaliste, avec que des interdits, etc. Donc voilà un travail de funambule. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de sagesse, c'est ce que j'ai dit, et puis de l'enseignement avec douceur. Aussi avec... avec discernement, savoir quand c'est le temps, quand est-ce que c'est une conversation en privé, voilà, faire attention à ce que l'on prêche en public, de manière magistrale, la différence entre cette façon de s'exprimer et puis cette façon d'exprimer en seul à seul, à un repas ou avec un frère. Ce phénomène-là, toujours dans ma conclusion, hein, conscience faible, conscience forte, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui, un jour, sera « éradiqué », entre guillemets. Ce sera toujours là. C'était présent déjà là, au temps où Paul l'écrit, c'est toujours là aujourd'hui. Et en fait, quelque part, c'est bien, parce que ça nous pousse tous à l'humilité. Et puis aussi, ça apporte un équilibre dans l'Église. Pourquoi ? Parce que je dirais quand même que les deux parties veillent malgré tout l'une sur l'autre et apportent cet équilibre dans l'Église. Les consciences fortes, par leur influence, vont amener petit à petit les consciences les plus fragiles à prendre conscience de leur liberté en Christ. Mais les consciences fragiles sont aussi là comme un garde-fou pour ne pas que les chrétiens et les consciences fortes aillent trop loin dans leur liberté en Christ. Parce que c'est ce que Paul va dire, on le verra la prochaine fois, c'est pourquoi je n'ai pas anticipé, je t'ai entendu le dire tout à l'heure. Mais il y avait des chrétiens qui carrément, eux, ils allaient, du temps de Paul, là, ils allaient en boîte de nuit se bourrer avec les païens. Ils allaient dans les retraites de yoga où on allait, alors que c'était notoire, qu'on allait vraiment chercher le salut et adorer, se prosterner devant la création. Vous avez bien compris, mais il y avait des chrétiens qui allaient carrément dans les temples d'idoles, ils étaient là assis avec les païens, et puis ils prenaient part aux fêtes, et puis Paul leur dit attention quand même, parce que derrière les idoles, même s'il n'y a pas d'autres dieux, même s'il n'y a pas d'autres divinités réellement, il peut se cacher des démons. Et ça, on le verra dans chapitre 10. Les consciences faibles aussi, elles sont là pour être un garde-fou aussi, pour ne pas aller trop loin dans la liberté en Christ et se mettre à faire n'importe quoi. Voilà. 20h56. Oui, allez-y. Allez-y, si vous avez des questions, des choses que vous voulez apporter, préciser. Même des désaccords, hein. De toute façon, j'ai dit ce soir, on ne sera pas tous d'accord. Hein. C'est le principe de texte.
Il y a un peu pour confirmer tout ce qui a été dit, il y a un passage qui me parle beaucoup, quand il est dit comme ça que tout est permis, mais tout n'est pas utile, et tout ne va pas nous édifier. Et c'est là justement qu'il faut avoir ce discernement, cette sagesse, parce que. Oui, on peut faire beaucoup de choses, mais attention, parce qu'il y a des démons qui sont derrière. Et nous, peut-être nous nous sentons si forts, hein, qu'on peut très bien se faire prendre. Et je crois que l'important, c'est vraiment de marcher dans l'humilité, de l'unité, et vraiment de s'en référer vraiment à la parole de Dieu, et d'être vigilant à ce qui peut-être nous... ceux qui se sentent forts croient qu'ils vont être forts et qu'ils peuvent tomber très bien dans les pièges. Et je crois que Hein, tout à l'heure, tu parlais de reprendre aussi avec douceur. Je crois qu'il y a un autre passage qui nous dit comme ça, que tes paroles soient accompagnées de douceur et de miel. Et ça, je pense que c'est important aussi, de, quand on parle à quelqu'un, vraiment de parler avec amour. Ouais. Pour que vraiment elle puisse comprendre, parce qu'on peut être sincère dans quelque chose, mais on peut se tromper sincèrement.
Oui.
Donc il faut vraiment. En fait, c'est beaucoup apprécié.
Avec du miel, et comme tu dis aussi, mais avec aussi, j'insiste là-dessus, du discernement.
Exactement.
Du discernement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre à pourchasser les autres, à dire pour les uns. Vas-y, il faut que tu bois un verre de vin, saisis ta liberté, et pour les autres, arrête de faire ton stretching, là, c'est satanique. Donc, du discernement, pour savoir quand sont les moments et les temps pour aborder un sujet, et surtout à être prêt à en débattre sans se battre, et surtout sans jeter l'anathème. C'est ça, parce que moi, j'ai eu des... Enfin, bon, malheureusement, j'incrimine personne, mais dans l'alliance de laquelle je viens, il y a eu des anathèmes de jeter sur les frères et sœurs, les uns sur les autres, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur tel ou tel sujet, un point doctrinal divergent en l'occurrence. Donc ça y est, ils étaient traités de faux docteurs, d'hérétiques. Et ce texte-là, où pourtant j'ai introduit là-dessus, Paul met clairement, et il discrimine là quelque part entre faible et fort, mais pas dans un but de division et de clivage, mais dans un but d'unité. Et d'amour.
D'ailleurs, les versets qui entament le chapitre, je trouve, sont bien, résument tout à fait ça, parce que, alors moi, j'ai une version sonore. Nous possédons tous la connaissance voulue, nous le savons. Mais la connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Et celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Et c'est qu'on soit faible ou qu'on soit fort, la principale, c'est d'aimer Dieu et de nous nourrir, d'avoir cette humilité, de dire, bon, mais il y a des choses que vous connaissez, il y a des choses... Et d'être humble par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on a compris. Quoi.
Et ça me fait penser à un verset aussi dans Philippiens, où Paul dit, si en quelques points vous êtes d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Oui. En attendant, marchons d'un même pas. Donc voilà, on peut avoir... Et d'ailleurs, il dit ailleurs, ne discutez pas les opinions, c'est-à-dire ne vous disputez pas en fait sur les opinions. Et Paul, était très sûr de ce qu'il savait. Et il ne dit pas, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu va m'éclairer bientôt là-dessus, ce que je n'ai sans doute pas bien compris. Et donc Paul était sûr de lui, il disait, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. En attendant, ne nous battons pas. Gardons la communion, l'unité d'esprit, et Dieu vous éclairera bientôt là-dessus. Et c'est aussi avec la foi dans cette promesse que Dieu, de toute façon, avec le temps, le cheminement, l'enseignement de la parole, Dieu va éclairer les uns comme les autres. Parce que moi, sur les sujets que je vous ai dit ce soir, je suis assez clair et positionné dans ma compréhension, mais si ça se trouve, je vais changer d'avis. Dans quelques temps, Dieu va m'éclairer que sur peut-être que en fait boire un verre de vin c'est complètement péché.
voilà, c'est juste pour. Le passage que tu citais, Philippiens 3, 16.
Philippiens 3, 16, très important, très important. Parfois aussi, on l'a vu dans les églises, il y a des jeunes convertis, des gens qui viennent de se convertir, ils arrivent dans l'église, ils sont pas encore mariés. Parfois un couple ou des gens qui sont pas encore en règle sur telle ou telle situation, et il y a des chrétiens qui leur tombent dessus là avec la Bible et qui les matraquent et qui ne laissent pas le temps au Saint-Esprit de faire son œuvre. Il faut aussi avoir du discernement à qui on parle. Est-ce que c'est un chrétien qui a 20 ans de maturité chrétienne et qui vit manifestement dans le péché, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient de sortir du monde, et dans auquel cas il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, de faire son œuvre et pas tomber dessus à coup de matraque, parce qu'on a fait fuir des gens comme ça. Hein. Ils n'ont jamais remis les pieds dans une église. Hein. Ok.
C'est vrai qu'il nous faut ça juste pour nous, parce qu'on vit dans le monde et le monde nous regarde aussi. C'est aussi très important. Pour qu'ils ne disent pas qu'ils sont comme nous dans toutes les choses. Mm. On est quand même des enfants de Dieu. On doit, par sur notre Seigneur. Oui. C'est important.
On doit marquer la différence.
Oui.
Alors, juste une précision. C'est, le Seigneur a dit que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Je pense que c'est un verset aussi qui doit parler à chacun. Et en gros, c'est là, le passage le dit aussi, hein, c'est la charité, c'est l'amour qui règne entre nous, qui fait que, bon, ben, qui attire. Parce que dans ce monde où il n'y a pas beaucoup d'amour, je pense que c'est l'amour qui est le principal.
Corinthiens chapitre 13, on va sûrement voir, c'est bien clair que l'amour est quelque chose de plus important à avoir les uns les autres.
Très bien, et bien que Dieu bénisse sa parole. Moi, quand j'avais entendu notre collègue pasteur parler sur ce texte, j'avoue que ça m'avait, moi aussi ça m'avait fait réfléchir. Et après, les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, ça a continué à cheminer. Et en fait, le fait qu'ils mettent les pieds dans le plat, comme je vous l'ai déjà dit, ça a été bénéfique pour l'Église, mais pour moi aussi. C'est pour ça que je l'ai fait aussi ce soir. Je me suis dit, non, ça, il faut le faire. En priant ? Ok. Peut-être, peut-être deux personnes peuvent prier pour conclure et que ben, Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.
Seigneur notre Dieu, combien nous voulons encore ce soir te louer et te remercier pour ta parole, parce que ta parole est la vérité, et ta parole c'est elle qui nous conduit avec sagesse. Et encore ce soir, nous avons pu entendre, Seigneur, ce qui vient de ta parole, et nous pouvons nous rappeler vraiment que l'amour, Seigneur, est un puissant soutien pour nos frères et nos sœurs, et donne-nous vraiment cette sagesse, ce discernement de pouvoir pour pouvoir enseigner, pour pouvoir parler avec, Seigneur, avec ton amour, et que vraiment, Seigneur, nous puissions être unis les uns les autres, et pas, comme il a été dit, pas nous battre, mais plutôt débattre avec, justement, avec ta sagesse et ton discernement, et avec amour. Merci de nous rappeler toutes ces choses, de ne pas juger notre prochain, simplement de vraiment te les apporter, de vraiment vivre avec cette espérance que tu vas faire bien au-delà de ce que tu peux faire, Seigneur, et encourager nos frères et nos sœurs, nous encourager nous-mêmes à continuer à apprendre de toi, de vraiment que nous puissions rester fidèles à ta parole et vraiment être conduits par ton esprit. Guide chacun de nous, Seigneur, guide ceux qui ont une conscience forte et ceux qui ont une conscience faible. Que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur, et pas pour notre propre gloire, pour que ça soit pour l'édification de l'Église et que, enfin, nous puissions être tous unis à te louer, à t'adorer, Seigneur, en esprit et vérité. Merci encore de cette liberté que tu nous donnes ce soir de pouvoir être à ton écoute chaque mardi, comme nous le faisons, et nous voulons tout particulièrement te prier pour ceux qui n'ont pas cette richesse comme nous de pouvoir se réunir. Vraiment, nous te demandons vraiment de continuer à bénir ta parole, parce que tu nous as dit que tout passe, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles demeurent éternellement. Alors que vraiment, tes paroles puissent être enracinées, ancrées dans nos cœurs, Seigneur, dans notre âme, dans notre esprit, afin de vivre pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu avais donné la loi, Seigneur, dans l'Ancien Testament, Seigneur, et aucun homme n'a su l'appliquer. Aucun homme, Seigneur, à cause de notre faiblesse, à cause de notre chair. Et Seigneur, tu nous appelles aujourd'hui à la liberté, Seigneur mon Dieu, et cette liberté de de vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Et la chair, Seigneur, c'est les divisions, c'est les haines, les colères, les animosités, Seigneur, c'est toutes ces choses, Seigneur, qui font que nous donner un mauvais témoignage, Seigneur. Et nous t'en demandons pardon des fois pour ces colères, ces mauvais sentiments, ces mauvaises pensées que nous avons contre un tel ou un tel. Et nous te prions encore, Seigneur, de nous changer parce que nous avons grand besoin de changer encore et encore, Seigneur mon Dieu. Parce que nous avons tous, sommes tous arrivés à une certain niveau, Seigneur, et nous avons encore besoin de grandir devant toi, Seigneur. Chacun de nous, humblement, Seigneur, grandir, Seigneur, dans la connaissance et grandir dans l'application, Seigneur, de ce que tu attends de nous, Père. Sois glorifié en toutes circonstances, Père. Au nom de Jésus. Amen.